OK, deux études très intéressantes dont on veut vous parler. C'est avec Martin Carly, le docteur PhD en sciences neurologiques, co-animateur de Génial à Télé-Québec, qui va en parler avec nous. Bonjour, Martin.
Bonjour, Bernard.
Alors, la première, elle a été diffusée sur CNN. C'est une étude britannique auprès de tout près de 100 000 personnes, 100 000 adultes, qui avaient des maladies chroniques. Alors, maladies chroniques, ça peut être de l'hypertension, ça peut être du diabète, ça peut être de l'asthme, ça peut être aussi une maladie mentale, un problème de santé mentale. Et ce qu'on découvre dans cette étude-là, c'est que si tu as une vie bien équilibrée et que tu prends soin de toi, tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'années de vie, d'espérance de vie. Martin?
Oui, exactement. Ben, tout à fait, Bernard. En fait, c'est vraiment intéressant parce que ce que ça nous dit, en fait, c'est ce que ces chercheurs-là nous disent, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Et quand on parle de prendre soin de soi, il y a quatre éléments, là. Il y a l'élément exercice, donc bouger.
Oui.
Il y a manger mieux, donc est-ce qu'on peut avoir une alimentation plus santé? Et est-ce qu'on peut couper des éléments comme l'alcool et le tabac? Donc, c'est vraiment les quatre marqueurs que les chercheurs ont utilisés pour aller voir là ce que ça avait comme impact. Et ils ont fait une corrélation entre donc un pointage, si on veut, au niveau de est-ce que tu as un rythme de vie santé ou pas santé du tout, et ta longévité, et il fallait avoir au moins deux conditions chroniques parmi 36 conditions différentes, et t'en as nommé plusieurs, là, hypertension, asthme, cancer et tout ça.
Alors, les gens vont se dire, ben oui, mais ça fait longtemps qu'on le sait, là, que si tu manges bien, puis tu fumes pas, puis tu bois pas trop, puis tu fais de l'exercice, tu vas vivre plus longtemps. La différence, c'est que cette étude-là concerne des personnes qui, de par leur maladie chronique, sont pas supposées vivre aussi longtemps qu'une personne qui n'a pas de maladie chronique. Et là, on découvre que même si t'es malade chroniquement, si tu prends soin de toi, tu vas gagner 6, pour les hommes, 6 années de plus, pour les femmes, 7 années et demie de plus qu'une autre personne qui a une maladie chronique et qui ne prend pas soin d'elle.
Exactement. Et en plus, l'étude portait aussi sur des personnes là d'un âge moyen, donc des gens dans la quarantaine à peu près qu'on a suivi pendant environ 9 à 10 ans. Et donc là, on parle vraiment là de monsieur et madame tout le monde, conditions qui peuvent varier, bien entendu. On a des petits bobos qui ont commencé à apparaître. On a des conditions chroniques là qui peuvent avec lesquelles on doit finalement cohabiter, si
ben
on
oui,
veut,
ben
exactement.
Oui.
Puis, mais le fait donc d'améliorer son hygiène de vie, ben ça permet d'accumuler donc ou d'avoir une longévité plus grande. Par exemple, donc tu l'as bien dit, quelqu'un qui est très en santé va avoir chez les femmes 7 années et demie de plus, chez les hommes 6 années. Mais même quelqu'un qui n'est pas très en santé, mais qui est quand même qui fait quelques efforts là pour être moins pire que quelqu'un qui est pas du tout en santé, va quand même aller gagner entre 1 et 3 années et demie de plus de longévité. Donc, le simple fait de faire des efforts porte ses fruits au niveau de la durée de vie par la suite.
Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'on peut déduire de cette étude-là que même avec une maladie chronique, si tu prends soin de toi, tu peux finalement vivre presque aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique?
Bien, ça devient plus difficile à déterminer parce que l'élément principal ici qu'il faut retenir, c'est que c'est une corrélation. Hein? On n'a pas de lien de cause à effet direct. Lorsqu'on parle comme ça de conditions chroniques, lorsqu'on parle de grands groupes, de populations et tout ça, ben on va voir se dégager des tendances qui sont significatives, mais exactement quel rôle a chaque élément là-dedans,
D'accord.
C'est difficile à dire. Par contre, ils arrivent à la conclusion que le plus grand bénéfice, c'est de couper le tabac. Donc, dès que tu coupes le tabac, que tu arrêtes de fumer, tu vas aller gagner de 5 à 6 ans en moyenne de durée de vie. Puis après ça, il y a l'exercice qui va te faire gagner de 1 à 2 années et demie. Puis pour la diète et l'alcool, là, ça, c'est moindre. C'est un peu moindre encore.
OK. Mais en tout cas, tu l'as bien dit. Le message, si on voulait le résumer, c'est même si vous n'avez pas une bonne santé a priori, si vous prenez les moyens,
oui.
Comment dire, découragez-vous pas. C'est pas parce que vous avez eu un cancer, par exemple. C'est pas parce que vous avez un problème cardiaque. Peu importe le problème de santé chronique que vous avez, si vous vous prenez en main, vous allez gagner des années de vie. C'est ça le résumé.
Exactement. Donc, tous les efforts qu'on fait vont améliorer notre situation, même si on n'a pas réglé les conditions chroniques.
C'est ça.
Et aussi, ben, je rappelle que les auteurs nous disent qu'il n'est jamais trop tard. Donc, quand même, tu commencerais à changer un peu ton hygiène de vie dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, ça va être positif à long terme.
En moyenne. Bon, parle-nous de cette autre étude diffusée notamment sur le site de Radio-Canada. Il existerait deux types de Parkinson.
Oui, exactement. Ça aussi, c'est très intéressant et ça peut ouvrir la voie à différentes façons de traiter les patients en fonction de leurs symptômes. Traditionnellement, lorsqu'on parle de la maladie de Parkinson, ben on assumait que c'était une maladie plutôt homogène, donc que ça, tous les patients, tous les gens atteints suivaient un certain, disons, un processus semblable. Mais par contre, on se posait des questions parce que chez certains patients, on avait vraiment des symptômes complètement différents. Par exemple, lorsqu'on parle de la maladie de Parkinson, ben on pense tout de suite à des symptômes moteurs, donc des tremblements, de la rigidité, de la difficulté à maintenir une posture stable, par exemple. Ben, on observe aussi chez des patients qui ont le Parkinson d'autres symptômes qui ont rien à voir avec ceux-là, par exemple la constipation, de l'incontinence fécale, des nausées, des vomissements et tout ça. Donc, les chercheurs se disent, est-ce qu'il y a vraiment une seule façon de développer cette maladie-là ou il y en aurait différentes? Ben là, des chercheurs danois viennent de confirmer un peu ce qu'on commençait à soupçonner, c'est-à-dire qu'il y aurait deux grandes voies de développement de cette maladie de Parkinson. La voie à laquelle on s'attendait, c'est que la maladie commence dans le cerveau. Donc, les neurones qui vont produire un neurotransmetteur particulier qu'on appelle la dopamine, qui est importante pour la motricité, ben ces neurones-là, on voit qu'ils commencent à moins bien fonctionner parce qu'il y a des protéines qui s'accumulent et qui ne fonctionnent pas correctement. Et ces neurones-là meurent et le cerveau manque de dopamine, il devient moins efficace. Ça, on s'y attendait. Et on sait que par la suite, là, lorsque ça part dans le cerveau, ça pourra par la suite se déplacer vers d'autres organes qui sont connectés au cerveau, comme le cœur, comme les intestins, par exemple. Mais les chercheurs, là, ils se sont rendus compte aussi que la maladie pouvait aussi partir de l'intestin. Donc, essentiellement, il y a des problèmes qui commencent au niveau de l'intestin. Et comme l'intestin est connecté au cerveau par des nerfs, cette maladie-là se déplacerait de l'intestin vers le cerveau pour affecter le cerveau par la suite. Il y a une bonne puis il y a une moins bonne nouvelle là-dedans.
Oui,
la bonne nouvelle, c'est
que
comme on a deux voies différentes, on peut envisager deux pistes de traitement différentes. Par exemple, on sait maintenant qu'en agissant sur la flore microbienne intestinale, on peut commencer à régler certains symptômes de la maladie de Parkinson. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais évidemment, pour ceux pour qui ça part dans l'intestin, probablement, hein, c'est ce qu'on pense.
Oui.
Parce que ceux dont la maladie démarre dans le cerveau, ben il semble que lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est déjà pas mal plus avancée, puis on a pas mal moins de marge de manœuvre pour agir lorsque c'est de là que ça part. Mais au moins, la bonne nouvelle générale, là, c'est qu'on peut faire la distinction entre différents types d'origine, si on veut, de la maladie de Parkinson. Et forcément, on pourra envisager des traitements plus personnalisés à l'avenir.
Ah, c'était très bien vulgarisé. Mon cher Martin Carly, co-animateur de l'émission Géniale à Télé-Québec, PhD en sciences neurologiques. Merci, Martin.
Ben merci Bernard, merci de l'invitation, c'est bien gentil.
Un plaisir, toujours un plaisir. Moi j'aime ça, là. Il prend des histoires compliquées puis il nous ramène ça pour qu'on comprenne, que ce soit clair pour tout le monde. Vraiment, c'est un art la vulgarisation et Carly la maîtrise bien. Après la pause, donc, cette fameuse étude qui démontre qu'effectivement, quand le gouvernement nous dit là, que ça a frappé plus fort au Québec à cause de la semaine de relâche, ben là, des scientifiques indépendants l'ont démontré. Et puis, ils vont venir nous expliquer là, comment ils l'ont démontré après la pause.